BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On vous parle souvent de transition écologique dans ces émissions BFM Stratégie. Nous réalisons avec notre partenaire, le BCG Boston Consulting Group. Puis tiens, il y a un mot que vous avez peut-être déjà entendu, peut-être pas, ce sont les émissions évitées. Voilà, de plus en plus d'entreprises mettent en avant dans leur communication justement leur contribution à leur neutralité carbone et les émissions évitées. Mais on va y comprendre tout ça avec nos deux experts. Anne Désera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Quantis France, qui est un cabinet de conseil en environnement, filiale du BCG, et Manuel Coeslier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du centre de recherche de Mirova, qui est une société de gestion d'actifs dédiée à l'investissement responsable. Alors Anne, je vais démarrer par vous. Ça veut dire quoi les émissions évitées?
Alors oui, effectivement, jusqu'à présent, on connaissait tous les émissions carbone qui sont générées par les activités humaines et que une entreprise, toute entreprise, calcule de plus en plus au travers d'un bilan carbone. Mais de plus en plus, on entend parler de ces émissions évitées, qui est un concept un petit peu plus récent, mais qui prend de l'ampleur et qui en fait représente les émissions de CO2 qu'une solution donnée va permettre donc d'éviter, d'accord, de ne pas émettre, par rapport à ce qu'on appelle un scénario de référence, qui est l'alternative qui aurait été utilisée en l'absence de cette...
Et très contraint, vous avez un exemple ?
Alors oui, un petit exemple, si on va par exemple calculer le volume de CO2 généré par une personne voyageant, parcourant un kilomètre en voiture électrique, avec le volume de CO2 émis par une personne parcourant un kilomètre en voiture moyenne, classique, donc qui représente la moyenne de marché, qui est constituée de voitures électriques, thermiques, hybrides, etc., etc. Et c'est la différence entre les deux qui constitue les émissions évitées.
Les émissions évitées. Et aujourd'hui, on les retrouve un peu, là on parle de la voiture, mais ces émissions évitées, j'imagine, on les trouve dans toutes les...
Dans toutes les industries, dans tous les secteurs d'activité, effectivement, dans l'énergie avec les énergies renouvelables, dans la construction avec, par exemple, le béton bas carbone, avec l'isolation, les pompes à chaleur, etc. Aussi dans l'alimentation, avec les produits véganes qui prennent de plus en plus de place et qui vont remplacer des produits à base de protéines animales.
Et alors, parce que comme vous l'avez dit, c'est assez nouveau d'utiliser ce terme émissions évitées. Alors déjà, est-ce que c'est mieux de parler d'émissions évitées que d'émissions, de réduire ces émissions de CO2? Et puis la deuxième, est-ce que c'est plus un... ça fait partie de la stratégie de communication, il y a une certaine mode, ou alors est-ce que c'est un vrai plan pour que, qu'on dise aux gens, voyez, si vous avez pris votre voiture électrique, vous auriez évité cela comme émission?
Alors, c'est pas mieux, c'est différent. C'est une métrique qui va vraiment être complémentaire des émissions carbone, et les entreprises vont pouvoir en tirer bénéfice de différentes manières. C'est beaucoup plus qu'un simple outil de communication. Aujourd'hui, une entreprise va notamment utiliser les émissions évitées pour démontrer l'impact positif de ses activités sur l'environnement. Et c'est particulièrement important pour les entreprises qui sont clés dans la transition, qui sont celles qui mettent sur le marché certaines des solutions qu'on vient d'évoquer, et qui parfois ont du mal à réduire leurs propres émissions, puisque elles ont vocation, en tout cas on a tout intérêt à ce qu'elles se développent, à ce qu'elles prennent des parts de marché, à ce qu'elles croissent.
Et il y a une notion de réglementation là-dedans, parce que pour l'instant il y a toutes les normes aujourd'hui, CSRD, etc. Mais est-ce que émissions évitées, est-ce que ça va rentrer dans une normalisation?
Alors à date, il n'y a pas encore de réglementation qui oblige les entreprises à communiquer sur leurs émissions évitées, mais ça va aussi dans le sens de la transparence qui est demandée pour le coup par l'ensemble des réglementations qui apparaissent aujourd'hui, qui demandent aux entreprises d'être le plus honnête, le plus complet possible sur les impacts de leurs activités sur l'environnement, sur la société au sens large.
Alors Manuel Coeslier, là on est sur le marché avec Mirova, hein, société de gestion d'actifs dédiée à l'investissement responsable. Alors justement, quand on entend ce terme d'émissions évitées, est-ce que ça peut influencer la gestion d'un portefeuille aujourd'hui?
Oui, absolument. Alors, nous, on a un objectif de financement globalement de la décarbonation. Donc, comme le disait Anne, il y a la baisse des émissions qui est l'objectif principal pour la plupart des entreprises. Mais pour faire baisser ces émissions, on a également besoin de mettre sur le marché des solutions, des produits et des services qui permettent aux autres de se décarboner. Et c'est là que les émissions évitées rentrent en compte pour les investisseurs, parce qu'elles représentent une information qui nous permet, nous, d'allouer ensuite le capital vers les fournisseurs de ces produits et services qui permettent aux autres de se décarboner. Donc ça vient vraiment en complément de l'information sur la décarbonation des entreprises.
Donc ça vient compléter les plans de transition, d'une part.
Exactement. Aujourd'hui, on a une priorité vraiment globale sur la décarbonation des entreprises. Oui. Mais il y a des entreprises qui vont devoir se développer. Ce sont celles qui mettent sur le marché des solutions qui permettent aux autres de se décarboner. C'est là que les émissions évitées sont vraiment une métrique fondamentale pour les investisseurs, pour nous permettre d'allouer le capital de manière ciblée et optimale vers les projets, vers les entreprises qui sont capables de contribuer à la mise sur le marché de ces solutions.
Alors justement, sur ces histoires de métriques, on sait que dans ce domaine du durable, de l'éco-responsable, il y a beaucoup de greenwashing. Hein. Chacun prend un peu les mesures qu'il veut, les métriques qu'il veut pour les adapter parfois à sa propre situation. Mais est-ce qu'il y a des méthodes de calcul sérieuses, scientifiques autour de ces émissions à éviter? Et puis, des bénéfices potentiels qu'on a à les utiliser indésirables?
Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les émissions à sont encore relativement peu utilisées, en tout cas quand elles le sont, quand les entreprises les calculent, elles ne les communiquent pas nécessairement. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi ce risque de greenwashing. C'est un sujet qui techniquement est complexe. On le voit, il faut à chaque fois réussir à définir ce fameux scénario de référence qui est basé sur un certain nombre d'hypothèses. Et selon les hypothèses que l'on choisit, on va obtenir des résultats potentiellement très différents. Donc une entreprise va pouvoir se tourner consciemment ou inconsciemment vers des hypothèses qui vont lui être plus favorables, et c'est là qu'il y a un risque de greenwashing. Donc pour éviter ça, il faut qu'on ait un scénario de référence qui soit toujours le plus réaliste possible, le plus pertinent par rapport au marché et qui reflète aussi les tendances technologiques et réglementaires en place.
Et oui, et si on reprend l'exemple de la voiture, par exemple, pour bien comprendre?
Ah oui, alors l'exemple de la voiture, typiquement, c'est absolument essentiel de tenir compte du marché. Si vous vous trouvez dans un marché dans lequel la voiture électrique est déjà bien implantée, nécessairement, vous n'allez pas générer beaucoup d'émissions évitées, alors que dans un marché dans lequel les gens, en règle générale, se déplacent massivement en voiture thermique, là, on va avoir beaucoup plus d'émissions évitées. Alors, il y a tout un tas d'autres paramètres, mais celui-ci en est un absolument clé.
En fait, ce qui manque, c'est un peu un cadre de méthodologie, parce que, comme je disais, c'est un peu comme au début des émissions de CO2, où tout le monde... entre scope 1, scope 2, scope 3. Enfin, il a fallu ces trois niveaux pour évaluer à peu près son émission de CO2. Là, c'est un peu la même chose pour les émissions
invitées. Tout à fait. Exactement. Aujourd'hui, il manque jusqu'à présent d'un cadre méthodologique de référence qui soit commun, qui fasse foi et qui permette à tout acteur, que ce soit des entreprises ou des institutions financières, de calculer les émissions invitées de la même manière, en partant des mêmes hypothèses, des mêmes scénarios de référence, pour éviter un peu les dérives et donc les risques de greenwashing.
Et Emmanuel Koessek, alors comment les institutions financières, les établissements financiers vont s'y retrouver un peu dans tout ce dédale de méthodes adoptées par chacun, en plus dans des industries parfois qui parlaient entre le vegan, le transport, enfin voilà, il y a beaucoup de différences.
Difficilement en réalité, parce que quand il y a une telle multitude de méthodologies, d'hypothèses qui peuvent être prises par les acteurs qui sont responsables, qui contribuent aux émissions évitées, ça crée un problème de confiance finalement dans la métrique, alors pour nous en premier lieu, et aussi pour les investisseurs, nos clients, qui vont regarder les communications qu'on va faire sur ces sujets-là. Donc c'est sur la base de ce constat qu'on a pris la décision, il y a 2 ans maintenant, en 2023, de lancer un appel à projet pour créer justement ce dont on vient de discuter, c'est-à-dire une base, un socle méthodologique commun qui permette le calcul d'émissions évitées avec des règles transparentes. Donc on a lancé un appel à projet en 2023 avec une douzaine d'institutions financières, dont notamment Robeco et Edmond Rothschild. Appel à projet à l'issue duquel on a sélectionné Quantis et iCare, deux cabinets de conseil, pour lancer, construire cette base de données qui va répondre à ce besoin d'harmonisation et de transparence des hypothèses qui sont prises pour le calcul des émissions évitées. Et donc concrètement, ce à quoi ça donne accès aujourd'hui, c'est un socle méthodologique commun qui permet aux entreprises comme aux institutions financières de faire un calcul transparent des émissions évitées auxquelles elles contribuent, avec une transparence, encore une fois, sur le choix des scénarios de référence, et qui apporte en fait cette confiance qui est nécessaire dans une métrique qui a un très fort potentiel pour la réallocation des capitaux vers les solutions.
Et après, c'est ça, il faut bien distinguer les données pour qu'on ait des résultats comparables, quoi, par industrie et tout ça.
Exactement. Et en fait, des émissions évitées peuvent être calculées avec des hypothèses très variables, même pour des entreprises qui contribuent à la même solution. Et c'est cette variabilité qui crée une perte de confiance dans la métrique. Et pour remédier à ce problème-là, justement, la plateforme qui a été créée, qui s'appelle l'AEP, la Avoided Emissions Platform, qui est gérée par iCare et Quantis, elle permet justement d'apporter ce niveau de transparence et de fiabilité et de robustesse qui est nécessaire pour pouvoir calculer globalement les émissions évitées.
Pardon, c'est là où les entreprises vont pouvoir... C'est une sorte de boussole, quoi, pour savoir un peu où elles en sont, savoir quelle direction prendre.
Exactement, les entreprises qui contribuent aux émissions évitées, aujourd'hui, elles peuvent utiliser cette plateforme pour communiquer sur l'impact de leurs solutions de manière transparente et pour créer finalement aussi cette confiance qui est nécessaire auprès des investisseurs pour investir, avoir ce dialogue avec les entreprises sur la qualité de leurs solutions, les géographies dans lesquelles elles sont mises en place, ce qui permet in fine de réallouer les capitaux de manière optimale vers les
solutions. Et encore une fois, les émissions évitées, enfin, tout ce calcul-là, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à avoir les calculs classiques de réduction des émissions de CO2, etc. Enfin,
bien sûr,
vous êtes investisseur,
ouais.
Vous continuez à regarder ça.
C'est complémentaire, comme le disait Anne. La priorité à l'échelle macro reste de réduire les émissions. Mais pour cette réduction des émissions, on a besoin du développement et de la croissance de solutions, chose qui va être quantifiée, notamment par les émissions évitées.
Sur ce sujet, on est les seuls en Europe à travailler dessus ou tout le monde, il va y avoir une harmonisation. Enfin, est-ce qu'on va voir ce terme apparaître aussi dans les grandes
entreprises? Alors, on le voit déjà apparaître dans d'autres régions du monde que l'Europe. L'Europe, alors comme sur beaucoup de sujets dans la durabilité, a souvent pas mal d'avance. Oui. Mais il y a d'autres régions du monde et notamment le Japon, par exemple, qui font beaucoup de choses sur le sujet des émissions évitées, qui sont très investis et avec lesquels on est en étroite collaboration pour, là encore, s'assurer qu'on arrive à une méthode qui soit commune.
Toujours exactement. Ce cadre méthodologique.
Exactement.
Eh bien, merci à tous les deux. Anne Désérable, directrice générale de Quantis France, cabinet de conseil à l'environnement, donc filiale du BCG, et Manuel Coeslier, responsable du centre de recherche de Mirova, société de gestion d'actifs dédiée à l'investissement responsable. Voilà, j'espère qu'on vous a fait réfléchir sur cette expression que vous allez certainement voir dans vos bilans, les émissions à éviter. Excellente semaine sur BFM Business et à très bientôt pour un nouvel épisode de BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.